et nous resterons quelques abstraits, comme les oiseaux de nuit, de préférence, comme les oiseaux du malheur.
Ils ont des becs, ils ont des yeux perçants, comme les femmes. Les oiseaux du malheur, ils ont la grâce, ils volent adorablement, comme les femmes. Les oiseaux du malheur, ils ont des pattes et marchent dans le vent. Les oiseaux du malheur, ils ont des nids avec tous nos enfants, comme les femmes. Les oiseaux du malheur, c'est avec ça que nous dormons, et c'est pour ça que nous crevons. En essayant de leur apprendre le doute et la misère,
viens avec ton bec. Avec tes yeux, viens. Avec ta grâce, avec tes pattes, viens. Avec ton nid et avec mon enfant.
Merci Léo.
Apprendre à rien, c'est difficile. Et délicat, et compliqué, et con, et inutile. Czerny, d'accord. Larousse, d'accord. La géo, d'ac. La pharmacopée, demandait à mon père. C'était un spécialiste. Il emportait avec lui des valises, le sentiment barré du codex, des infusions particulières, qui sait, l'éternelle jeunesse. Et si je meurs? Il est mort. Apprendre à rien. Cet Hamlet tient. To learn or not to learn, that is, c'est con. La méthode? Seul sur un chemin de chèvre à la montagne, au moment où il ne va plus y avoir d'arbres, au moment où la végétation peut s'écrire facile sur une page de ton agenda, et puis même pas te frapper pour le téléphone, tu parles à voix basse, et tu t'entends te répondre, c'est bat, non? Le circuit fermé. Allô, le temps? Yes. And you? Pas mal. Tu prends une pierre dans ta main. Personne n'y a jamais touché. Tu te rends compte? Une pierre vierge pour toi tout seul, éternellement. L'adultère chez les pierres que tu maries, comme ça très vite, c'est rare. Une pierre, ça s'accroche, comme les étoiles. Tu as déjà vu des étoiles à toi se barrer avec un particulier? Dans une galaxie de passe? Tu regardes un coq de bruyère qui passe en te faisant peur, parce que le bruit que peut faire un coq de bruyère quand tu as la pierre en main et qu'il n'a jamais eu touché une main humaine, eh bien ce bruit est fantastique. Ça fait fou, fou, comme Czerny. Écoute, ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta, quel salaud! Tout à coup, une source, pas loin du glacier, Et puis des fleurs sauvages, à se demander vraiment, Harlem, tu crois? Des fleurs noires de la débauche ou de l'anarchie, non. Les fleurs noires de pierre, de l'amour. La méthode, apprendre tout par cœur, surtout la gueule des gens. Et puis tout oublier immédiatement, comme à l'école. Vous avez appris la gueule de grammaire, ouais. Alors, elle est vieille, comment ça fait? Je t'aime, tu m'aimes. J'aime. Apprendre, oui, apprendre. Sentir les fumiers avant de les apprendre. Dresser son nez, faire des exercices particuliers. Le téléphone, allô? Et puis tout de suite, fourrer son nez dans l'écouteur. Oh là 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 là, il n'est pas là, monsieur. Comment? Allô? Je n'entends pas, mais je sens. Et tu raccroches. Au début, c'est difficile. On ne sait pas si tu écoutes ou si tu renifles. Et puis, petit à petit, entre Dior et la merde, il n'y a souvent qu'une question de circuit mal branché. Je suis un olfactophone. Je suis un vieux corbeau qui traîne sur les fils télégraphiques. J'en apprends des choses. Les fils télégraphiques, c'est un peu le cabinet de la chose publique. Je n'ose pas décrocher la nuit parce que ça sent quand même la méthode. Article 1, casser les téléphones. Les autres, l'autre. Les autres, c'est facile. C'est toi, multiplié par eux, c'est clair. Les autres, c'est tes pantalons enfilés par eux, c'est clair. L'autre, j'y reviendrai. Article 2, casser les autres. Quand tu t'es enfilé comme ça, une peau de crocodile sur le sentiment, alors on ne t'approche plus que par oui dire « Ah, celui-là, on ne sait pas qui c'est exactement. » Et tu poursuis ton chemin, ta cigue ou ton chien, si tu as le sens de la réverbération. Les chiens ne sont pas les autres. Il fallait bien savoir un jour ou l'autre, les chiens, ça réverbère un quelque part qui est juste sur la bulle de l'univers, un peu en dehors. Ils sont un peu en dehors, les chiens. Nous bouillons dans l'administration. Nous sommes des administratifs. Article 4, casser l'administration. T'as deux points, frappe sur la table, frappe la tête. T'as deux points. Mets-les au bout de tes bras, le long de ton corps. Et prends des loups par la main. Ton point alors s'épanouira comme une fleur matinale. Frappe sur la table. Tu as deux points. Le silence que j'ai perdu au bout de cette rue barrée ne m'a jamais été rendu. J'habite en haut de ces pavés. J'y vois des pays trop marins, des fleurs de figues délaissées, et le système de ton bien. Allongé dans cette rue blême, tu passais sur moi, comme un char, c'était de la guimauve en carrossé de miel. Alors, je m'abreuvais en regardant dedans, oh les sources de brume dans ces rues dévêtues. Tu as deux yeux, regarde en dedans de toi, et sors-toi par les yeux. C'est aussi ça la méthode, s'extirper. Article 5, s'auto-vomir et s'offrir en prime. La salope de Cahors, chacun a une salope quelque part. Moi j'en ai par-ci par-là, et à Cahors, je me souviens de ces lilas dont elle fleurissait ma maison. Avant que cette salope-là ne prenne sa brille, elle m'avait fourgué des fleurs, histoire de montrer son bon cœur. Ben dame, un cœur, il faut que ça brille. Il y a des gens que ça fait marronner de ne pouvoir jamais entrer dans l'intimité des artistes. C'était dans son genre à elle, une artiste. Elle est entrée. Le trou de serrure où tu lorgnais, c'était ma cavale de la nuit. Et toi, tu venais de tapiner en tapinois, en tapinouille. Dis-moi, la salope de corps, où traînes-tu ta gueule encore? Sur quelle fosse à purin, sur quelle poule à garangésine? Dis donc, la voyeuse de corps. Sur quel fumier, sur quel jardin, sur quel azur fais-tu ton deuil, toi? L'amour, tu le fais avec ton œil. Et dire qu'elle me disait l'autre, qu'est-ce qui peuvent être cons ces deux-là? Chacun une salope quelque part, moi. J'en ai par-ci, par-là. Et à Cahors.
Et comptent-ils à rentrer chaque année, les artistes? J'avais sur le futur des mains de cordonnier, chaussant les astres de mes peaux en se mêler, la conscience dans le speeder, je mets les voiles. Je déchargeais des tombereaux de souvenirs, nous étions une histoire et n'avions rien à dire. Moi, je prendrais la quatrième dimension pour trisser dans l'azur mes jambes migratrices. Le mur instantané que je dresse à la Chine, Mao, c'était le nom de ce viking flamand. Le tissu esquimau vieillit beaucoup plus vite des plaies sur des grabats du Chili à Santiago, s'exténuait en équation de cicatrices. Le malade concret et l'interne distrait sont allés boire un pot au café de la morgue. Des vieillards, le chéquier à la main à la banque, faisaient des virements de testicules abstraits. L'embryon vaginé, derviche dans le manque. Un pavot est venu l'asperger cette nuit. Mon berceau féodal et mes couilles gothiques, des faunets, des trognons, des tissus ajoutés fondés sous les sunlights de l'opéra comique. La Standard Oil prend du bidon et du gin fizz, la fièvre est descendue ce soir à Mexico. Oh, ce parfum diapré dans la nuit des cigales. Dans une discothèque, on a mis des barreaux. Les fenêtres s'en vont de la gorge et du squale. Ça sent la perfection dans ces rues amputées. Saint-Denis est un saint derrière doublé. La fièvre est descendue ce soir dans un bordel et fallait voir comment ça soufflait dans la cale. Il y a partout des cons bordés d'oiseaux comme des lettres cheminant. Mon parchemin. Nightingale, ô chanson crevée à minuit trente, j'ai le concile dans la main qui se lamente devant le mur à faire un peu des oraisons. La folie m'a tenu la main à sa culotte. On eût dit de la mer s'en allant pour de bon. Viens petit, dévais-toi, prends du large et jouis. Je sais des paravents comme un zoom d'espérance. Que font-ils? Qui sont-ils? Ces gens qu'on tient en laisse. Dans les ports, au shopping, au bordel, à la messe. Et ces mômes qu'on pourrait se carrer entre deux trains, histoire de leur montrer qu'on a du face à main. Ils ont voté, ils voteront comme on prend un barbiturique. Et ils ont mis la République au fond d'un vase à reposer. Les experts ont analysé ce qu'il y avait au fond du vase. Il n'y avait rien qu'un peu de vase. Et qu'ont-ils à rentrer chaque année, les artistes? J'avais sur le futur des mains de cordonnier, chaussant les astres de mes peaux en se mêler, la conscience dans le speeder, je mets les voiles. Shakespeare aussi était un terroriste. Waltz, 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 disait-il. Videla. En français, budel, trip. En italien, budella, trip. En argentin, allez-y voir. Waltz, waltz, waltz. De quoi dégueuler. De quoi dégueuler. Vraiment.
De quoi dégueuler. Vraiment. Léo Ferré, qui nous interprétait à l'instant même Words, 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 sur l'album, bien sûr, 1980, tout court, La violence et l'ennui. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de chez Ludwig. Faut pas exagérer, il y a forcément Ludwig qui se ramène dans un coin lorsqu'on parle de Léo. Eh ouais, forcément, il vient et puis il fait son petit... Comment dire ? J'allais dire sa petite affaire, mais enfin... Ça, on pourrait l'interpréter autrement si je dis ça. Or non, il y a forcément Ludwig qui vient s'immiscer à un moment ou à un autre. Tout simplement parce que ben, on le reconnaîtra pour celles et ceux. Alors moi, je suis un amateur, mais novice en ce qui concerne Ludwig van Beethoven. Mais celles et ceux qui connaissent davantage son œuvre, peut-être... reconnaîtront une certaine parenté entre certaines compositions de Léo Ferré et celle de Ludwig de Bonn, le petit mec de Bonn. Sur Internet, vous avez un site qui s'appelle les lvbeethoven.fr. lvbeethoven.fr. Il y a un petit texte de mes amis de chez SCL qui a été confié à ce site-là. Je vais vous le lire. Hein. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'abord d'écouter. On va écouter Ludwig, bien entendu, la chanson Ludwig, mais ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est Egmont, l'ouverture de Ludwig van Beethoven sur laquelle Léo Ferré pose les mots de Ludwig. Et cette version que je vous propose, c'est, entre guillemets, bien évidemment, celle dirigée par Léo. En quelque sorte, l'instrumental de la chanson que nous écouterons après.
Thank you.
Léo et la musique, c'est une grande histoire d'amour. Quand il était petit, il dirigeait des orchestres imaginaires sur les remparts de Monaco. Sa première rencontre avec Beethoven, il l'a rencontré bien souvent et écrit dans son roman Benoît Misère. Une autre rencontre importante, c'est le jour où il assistait à une répétition d'Arturo Toscanini dans la loge du pompier. Toscanini l'a vu. Léo raconte. Ce sont des extraits d'entretiens radio et télé qui vont suivre et qui ont été rassemblés dans un recueil édité aux éditions La Mémoire et la Mer intitulé « Vous savez qui je suis maintenant ?» C'est Léo qui parle. Il est venu me chercher et il me dit « Qu'est-ce que tu fais là à toi ?» en italien. Je lui ai dit « Je suis venu écouter votre musique, monsieur. » Il me dit « Non è la mia musica, vieni. » Ce n'est pas ma musique. « Viens. » Il m'a pris par la main, il m'a assis à côté de lui et il m'a dit « Maintenant, tu vas écouter Coriolan de Beethoven. » Léo, en 1975, au Palais des Congrès, dans un spectacle intitulé « Toute la musique de Beethoven et de Ravel à la chanson », dirigera l'ouverture de Coriolan qu'il inclura dans son texte préface après la phrase « Beethoven était sourd ». Sur le CD « Je te donne », réédité par les éditions « La mémoire et la mer » en 2000, Léo dirige l'ouverture de Coriolan avec l'orchestre de la RAI. Le texte Ludwig, qu'il dit sur l'ouverture Egmont, est à l'origine une commande d'un éditeur pour un projet de préface pour une réédition des carnets intimes de Beethoven. Ce qui est raconté est vrai car ce sont des souvenirs d'enfance. C'est Léo qui parle cette fois-ci. J'étais tout jeune. J'allais avoir 14 ou 15 ans. J'étais en deuxième année avant le bac. J'étais au collège français en Italie, à 20 km de la frontière. C'était un collège français avec les frères des écoles chrétiennes. Excuse-moi de vous parler de ça. Un jour, on était trois par trois en promenade. Et alors ce type nous fait un signe. On pouvait parler, mais quand il fallait s'arrêter, on s'arrêtait. Vous ne vous rendez pas compte. J'ai vécu ce moment-là. On nous disait « ne parlez pas ». Alors, on ne parlait pas. Et on a été près de la mer Méditerranée avec pas beaucoup de sable. Il y avait du gravier. J'avais écouté un jour l'ouverture d'Egmont et j'ai écouté ça à ce moment-là et j'ai pleuré. J'ai pleuré et je me suis caché. Parce qu'on ne pouvait pas pleurer pour quelque chose d'interne comme ça. On se moquait de vous. Alors on est rentré en classe et le professeur nous a dit « Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait ?» Alors moi, j'ai raconté mon histoire et ce type, Beethoven, il l'appelait Beethoven. Beethoven. Il s'est moqué de moi. C'est pour ça que j'ai écrit ça il n'y a pas longtemps, ça m'est revenu comme ça. C'est pour ça que j'aime Egmont et Beethoven, bien sûr. Mais je ne désire le faire qu'avec l'orchestre. Je peux le faire avec la bande. Je l'avais fait au cours Canada avec l'orchestre de Montréal et ça me plaisait beaucoup de faire ça. Et j'ai fait ça en pleurant parce que ça me rappelait... Je redevenais petit. Fermez la guillemets. Les guillemets. Les extraits suivants sont tirés du livre déjà cité plus haut. Vous savez qui je suis maintenant. Je donnais ça aux musiciens et je leur disais « Si tu n'es pas Beethoven, tu ne peux pas jouer Beethoven ». Le message des grands artistes est une volonté collective qui se multiplie dans la mémoire des hommes. La mort n'est qu'un fait divers. Beethoven est mort, c'est toi qui le supportes, qui le coule dans tes veines. Beethoven est mort, il renaît en toi, musicien. Il est par toi. Sois Beethoven et joue. Et c'est bien. J'avais écrit ça pour les musiciens. Et il y a la citation que j'ai retrouvée, il avait dit « Je n'écris pas seulement ce que j'aimerais le mieux, c'est Beethoven qui parle, mais ce dont j'ai besoin à cause de l'argent. » Et puis, qu'est-ce que vous voulez? J'aime Beethoven. Dieu sait si tout est à jouer. Même un passage de la grande fugue que je suis en train d'orchestrer pour grand orchestre et chœur, qu'est-ce que je vais me faire engueuler? Vous vous rendez compte, un musicien de variété qui orchestre, qui ressemble, en plus difficile, au final de la 9e, grosse fugue, ce qu'on appelle l'opus 133 de Beethoven. Critique de la musique, ah, J'en connais un, moi, qui critique à François ce journal quotidien du soir. Il s'appelle Cotte. Il était venu à la première du concert au Palais des Congrès où je dirigeais Coriolan de Beethoven. Il a tiré l'article « Ferré assassiné par Beethoven ». C'est pas mal, non? Ce à quoi j'ai dit « Ben, moi, je suis bien fier. Et si je suis assassiné par Beethoven, je suis bien content. » Fermez les guillemets. Au sujet de la chanson « Muss es sein, es muss sein », voici un extrait d'un article de Stéphane Auron Ludwig von Ferré, paru dans les cahiers d'études Léo Ferré numéro 5, intitulé « Muss es sein, es muss sein ». Ouvrez les guillemets. Nous sommes probablement ici, au cœur du questionnement de Ferré, en ce début des années 70. Et encore une fois, la vie privée de Ferré se mêle à son œuvre. Son œuvre fait écho à sa vie. C'est la période du doute. Il lui est très difficile de diriger des orchestres en public. Son désir de mettre la musique dans la rue se heurte à de nombreux obstacles. Il ne répond pas, ne veut pas répondre, aux attentes politiques d'une partie de son public issue des mouvements de mai 68 qui vient perturber à coups de crachats, de canettes de bière et de tire-fonds de rails ses spectacles. Ferré pense arrêter la scène. C'est dans ce contexte qu'il a écrit « Muss es sein, es muss sein ». Il est intéressant d'évoquer ici la deuxième interprétation de la signification du « Muss es sein » de Beethoven, que donne l'article de François Perrin dans lequel il est question de ce sentiment de fatalité qui habite l'artiste devant ajourner ses projets pour assurer le quotidien. Ferré n'est pas Beethoven et n'a jamais prétendu l'être, mais il est singulier de constater ce qui peut paraître dans leur vie respective, sinon comme des similitudes, au moins des parallèles. Au début des années 70, dans le contexte de crise évoquée plus haut, Ferré tente à nouveau de diriger sa musique, celle de Beethoven et Ravel, et trouve un producteur pour se lancer dans l'aventure. Son spectacle de 1975 s'intitule « Toute la musique de Beethoven et Ravel à la chanson ». Nous, c'est dans la rue qu'on la veut la musique, et elle y viendra et nous l'aurons, la musique. Il réussit cette gageure de la faire sortir des salles illuminées de Pleyel et Gaveau. Immédiatement, la presse lui reproche de ne pas être à sa place, je cite, malgré un succès public incontestable. La variété dirige. Elle touche à la grande musique. Pourtant, Ferré fera souvent remarquer avec fierté qu'aucun chef d'orchestre n'avait rempli comme lui, 25 jours de suite, une salle de 3200 places avec le même programme.
Léo comunque è il padre assoluto della canzone poetica moderna dal dopoguerra a oggi in Europa, ma direi anche una marcia veramente in più rispetto al cantautorato tradizionale cui noi siamo abituati. È l'inventore della canzone sinfonica e della poesia in musica, che fa appello alla cultura surrealista, all'anarchismo, a grandi raffinatezze di linguaggio e a improvvise invettive popolari che fungono da provocazione e da sconcerto. Nello stesso tempo questo poeta di pura letteratura, di pagina bianca, è anche un grandissimo musicista e per musicista si intende che come lui in poesia è discendente dei Baudelaire, Verlaine e Rimbaud, così in musica è diretto discendente dei Debussy, di Rachmaninoff, di Mozart. Non a caso quasi tutta la sua produzione musicale è assente la percussione, elementi diciamo anche di musica pop. La grande, il grande mondo sonoro musicale di Leo sono gli archi, il mondo dei violini, dei cori, perché lui ha tutto una genetica musicale interiore di stampo classico sinfonico. Dirigeva orchestre di 90 elementi, scriveva le partiture per ogni orchestrale, per ogni musicista.
Con la musica classica Leo Ferré ha avuto sempre un rapporto molto stretto, un rapporto che è cominciato quando lui era bambino. Lui viveva a Monte Carlo e suo zio, come del resto anche il padre di Leo, lavoravano al casinò. Il padre era direttore del personale e lo zio lavorava al teatro del Casinò, che è il teatro dell'opera di Monte Carlo. E quindi lui portava Leo da piccolo, quando c'erano i concerti, ad assistere alle prove. E una volta Leo si trovava nella postazione dove c'erano i pompieri e c'era Toscanini che stava provando il Coriolano di Beethoven. E Toscanini vide questo bambinetto, allora andò da lui, lo portò dove c'era il podio e gli disse: cosa fai qui? E lui, Leo, disse: sono qui ad ascoltare la sua musica. E Toscanini gli disse: questa non è la mia musica, questa è la musica di Beethoven. E poi lo tenne lì per tutto il periodo delle prove.
Au fond d'une guitare enragée à l'automne, il y avait du sang comme un dièse mouillé. C'était un bon au détour d'une rue. S'il fallait parler de cette romance en allée dans la rue, avec ses habits du dimanche, alors que la semaine s'étire un peu mieux au bout de l'incertain et du tragique, s'il fallait chanter cet éternel recommencement qui tient de l'habitude et du savoir constant et vérifié par les arbres, par les crépuscules teints, par les regards cachés derrière la pensée perverse ou religieuse, s'il fallait dire un peu de cette insouciance et qui nous mène au jardin des faillites et de la solitude. S'il fallait, alors remonterait du fond de nos cagibis inconscients, du fond de notre vouloir le plus profond, la certitude. Le temps précis et incalculé est toujours indemne. Alors s'emballerait notre habitude retenue par la défense de s'insurger, de s'éprendre, de s'illusionner. Coriolan n'était qu'un prétexte. Edmond, parlons-en. Tu te souviens, sur cette plage tout en gravier, cette plage défaite au nom d'une certaine compromission entre la mer et le spectacle, cette plage que tu voulais défaite et soumise à ton imaginaire chorégraphie d'enfant seul et triste. Tu t'en souviens, dis. Tu t'en souviens. Et tu chantes. Et tu chantais. Et tu chantais, et tu chantais, et tu chantais, et tu chantais, et tu pensais qu'Egmont, c'était la mer, le drame, les larmes, la beauté de cet instant fabuleux de solitude exaucée. Tu l'avais dit, et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et de la grâce, et tu t'étais caché parce que tu étais seul au monde et vaincu et grinçant contre l'imbécilité secourue et protégée par la loi et par le nombre. Depuis, Egmont me remonte comme la mer après ses descentes impitoyables au fond des enfers et de la nature fidèle. Egmont, comme une source bienheureuse et coulant, comme une génération tout entière de bienfaits uniques, parce que tu es l'unique, parce que je t'ai donné l'unique, et ce temps qui s'est arrêté au bout de la seule invention de l'homme. Devine, je m'illusionne et je pars m'illustrant moi-même et me regardant à travers le style enfin parcouru au long de tous ces silences, de toutes ces vicissitudes interpolées par des copistes dont je me fais le modèle transmis d'on ne sait où et sans doute par voie orale. Quand je parle à l'illusion, je suis à bonne, sous-traitant la 14e symphonie chez un archiduc de mes prétendants. Je vais alors et maintenant vers l'horizon blafard et souriant peut-être, parce que de mon œil jusqu'à son désir de paraître, il n'y a probablement qu'une intention d'architecte. Ce que je vois se perd. Ce que j'instrumente ne peut qu'être perdu aussi. L'instinct du hautbois est une crécelle inventée par des lèvres secourues. Le vent, d'habitude, s'informe,
de ses perverses possibilités et se retrouvera bientôt dans le plan général de ses bois vertueux et grinçants, rien qu'à l'idée de se protéger tout en haut, à l'aigu, se défendant aussi de la fable contrapontique et apprise sur les bancs de l'informe et de la décadence. Le chant, le chant, le chant, et cette vertueuse passion qui ne va jamais au bout de la relative inversion, dans le moins, que l'on ne découvre qu'à force de bienfaits dans l'outrage et dans le sacrifice propitiatoire, un peu comme la terreur obligée du stupre et de la revendication. Je sais des formules apprises, je leur crachais dessus, je sais des impossibilités pratiques, je l'ai décontenancé à force d'incroyable. L'incroyable, c'est la porte de secours que je poussais quelquefois. Et personne jamais ne s'en est aperçu. La perversion m'obligeait à me rendre tel que les pervers pouvaient m'imaginer. Et encore, cette perversion tellement cachée au fond des mers conscientes, revue et corrigée par le cynisme des lois de préférence pénale. Je l'entendais au fond de moi comme les accords de la neuvième que j'avalais de travers parce qu'engloutis pêle-mêle dans ma bouche auriculaire et je le rendais acquis de droit, je veux dire aux inadaptés de l'esprit. Ils croyaient que je me trompais alors que Stravinsky c'était déjà moi avec le sourire en plus. Enfin, ce sourire tout près de vos larmes, il faut concéder, ça favorise et ça trompe les historiens. J'allais jouer à la Marelle avec 32 cases. La sonate pour piano, c'est une démission de joueur. Quand Dieu se masturbe, il met du cassis dans ton vin blanc et tu jouis en même temps que lui, à cela près que Dieu, c'est toi aussi. Vous n'êtes rien moins que les informes copies de votre propre imagination. Lorsque tu imagines, tu crois être dans le spectacle, alors que le spectacle te regarde et te vérifie. Quand je transpirais auprès de Thérèse, elle prenait ça pour du génie. Mon génie, c'était justement de m'arrêter à temps, au bord du non-dit, et de l'informuler. Tu sais bien que Rembrandt n'a jamais dessiné que des fadaises. Si tu voyais ce qu'il voyait, tu t'arracherais mes oreilles. Nous sommes d'un monde non édifié, et que nous sommes seuls à parcourir. Encore qu'il faille un peu de désordre aussi et de cette indicible beauté qu'on ne dit même pas en musique ou au fusain et que nous immolons chaque soir avant de parcourir l'inédit et la fantastique pâleur du silence et de l'objective inanité. Le néant vraiment finit par avoir une consistance tellement nous nous en informons, tellement nous le parlons avec nos mots et nos idées alors que l'idée même en est transfigurée par nos sens et notre dérisoire entendement. Coriolan n'était qu'un prétexte. Egmont, parlons-en. Tu te souviens dit, sur cette plage, tout en gravier, cette plage défaite, au nom d'une certaine compromission entre la mer et le spectacle, cette plage que tu voulais défaite et soumise à ton imaginaire chorégraphie d'enfance seule et triste. Tu t'en souviens dit, et tu chantais, et tu chantais, et tu chantais, et tu pensais qu'Egmont c'était la mer. Le drame, les larmes, la beauté de cet instant fabuleux de solitude exaucée. Et tu l'avais dit, et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et de la grâce. Et tu t'étais caché parce que tu étais seul au monde, évaincu et grinçant contre l'imbécilité secourue et protégée par la loi et par le nombre. Depuis, Egmont me remonte comme une source bienheureuse et coulant, comme une génération tout entière de bienfaits uniques, parce que tu es l'unique, parce que je t'ai donné l'unique, et ce temps qui s'est arrêté au bord de la seule invention. La douleur
tout libertaire, la nuit noire. Une des inventions de l'homme, loin d'être la plus fameuse. Pas mal, on va dire. Mais, ouais, la plus fameuse. Si je pouvais l'interviewer, c'est une des premières questions que je lui demanderais. Je lui demanderais bien pourquoi il fait référence à Coriolan dans un texte qu'il chante au-dessus d'Egmont. Bon, il y a un truc. Alors je lui poserais la question, s'il était là, je lui demanderais, je lui dirais, bah, pourquoi Léo pour Monsieur Ferré, je sais pas, peut-être que j'appellerais Monsieur Ferré, Léo, je peux pas savoir. Et bien, probablement qu'il me dirait, et pourquoi pas. Alors là, il me resterait plus qu'à dire, on l'écoute, pour pas avoir l'air trop con de ma question stupide et surtout de sa réponse évidente, pourquoi pas. 2h25 en direct. Je vais passer la mélancolie Christiane. Le temps que je la retrouve, j'en mets une petite que t'aimes pas mal aussi. C'est un petit peu long, mais tu l'aimes bien. Radio Libertaire, c'est la voix sans Dieu, sans mettre son public.
Bonjour, c'est Christiane.
Bonjour.
Je suis libre aujourd'hui. On peut être libre aujourd'hui.
Dans la mesure où on n'est pas dans la cité, oui.
Libre de soi, libre des autres.
Oui, c'est très long, ce serait très long. L'autre, c'est ça, l'autre grignote, il vous grignote. Ah, j'attends, je voudrais que l'autre ne vous grignote pas. Je pense aussi, l'autre qui vous aime, il vous rentre dedans, il vient vous gratter, rien à faire, c'est terrible ça. C'est moi jamais je vais m'inquiéter l'autre, quoi. Si l'autre veut vous sourire, et si vous lui souriez, vous, ça va très bien. Mais ça s'arrête là. S'il ne veut pas vous sourire, vous ne souriez pas, puis c'est fini. Mais il passe à côté de vous, même dans votre vie, puis vous aussi. C'est pas comme ça que ça se passe.
Dans le fond, l'anarchie, c'est cela.
L'anarchie, c'est l'extrême solitude. Hein.
C'est ça, oui, la solitude, l'insolence.
Il faut voir le petit Larousse, je le dis souvent parce que ça précise bien mon idée, qui doit être votre idée, qui doit diviser tout le monde, je pense, c'est pas original. Le petit Larousse, rose, j'avais en 1930, j'avais 14 ans. Tout petit Larousse, un jour, il faut croire que ça m'avait pris de bonheur, cette curiosité. J'ai vu le mot anarchie, il y avait négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne. C'est aussi noble que l'amour. Hein. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui vient de me dire « J'aime l'autorité, j'aime qu'on me commande, j'aime les coups de pied dans le cul. » Eh bien, maintenant, vous pouvez chercher dans le dictionnaire. C'est plus ça. Hein. Et ça, c'est malhonnête. Hein. C'est supprimé, ça.
C'est quoi, alors?
Ah, c'est le bordel dans la rue, c'est le machin, c'est le truc, c'est le terrorisme, ça. Voilà.
D'ailleurs, finalement, groupe anarchiste, c'est quelque chose qui n'existe pas.
Oui, moi ça.
C'est antinomique.
Ah, absolument. Oui, et anarchisme aussi. Alors quand on me dit d'expliquer, de dire d'une façon un peu plus précise, un peu plus littéraire peut-être, ou philosophique, ce que c'est que l'anarchie, je dis, c'est la formulation politique du désespoir. Donc.
Ni Dieu ni maître, Léo Ferré, c'est un credo quand même.
C'est une parole fantastique, ça. Et. Je dis ça parce que c'est pas une parole de moi.
Et mais c'est une chanson.
C'est une chanson, oui. Et ça, alors, vous savez, c'est l'honneur pour moi, ni Dieu ni maître. Si les gens avaient vraiment ça dans le profond de leur cœur. J'ai connu deux anarchistes, au fond. Deux.
Des vrais?
Oui, seuls. En province, en France, dans une maison, des fois avec un chien, c'est tout. Toujours le sourire. Voilà. Mais sinon, c'est autre chose, c'est pas sans des parleurs.
Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, les anarchistes. ramassé des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un pain sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Pour l'anarchisme, vous savez, c'est un mot que je n'aime pas parce que moi je suis pas pour l'anarchisme. L'anarchisme, c'est une façon politique d'être anarchiste. Moi je suis l'anarchiste, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. J'avais vu ça dans un petit Larousse que j'avais 14 ans, j'avais été voir ce mot-là. Et j'ai vu une négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je trouve que c'est aussi beau que l'amour. Vous savez, l'anarchie, ça n'est pas la bombe, ça n'est pas le... L'anarchisme, ça n'est pas pareil, c'est la façon politique de s'exprimer avec cette négation de toute autorité, c'est autre chose. L'anarchie, c'est la solitude, vraiment. Alors, il n'y a pas de raison que je ne sois pas anarchiste.
La mélancolie. C'est une rue barrée, c'est ce qu'on peut pas dire. C'est 10 ans purés dans un souvenir. C'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir. La mélancolie. C'est un chat perdu qu'on croit retrouver. C'est un chien de plus dans le monde qu'on sait. C'est un nom de rue où l'on va jamais. La mélancolie, c'est se retrouver seul, place de l'opéra, quand le flic t'engueule et qu'il ne sait pas que tu le dégueules en rentrant chez toi. C'est décontracté, ouvrir la télé et regarder distrait un zitrone pressé. Parler du tiercé que tu n'as pas joué, la mélancolie, la mélancolie. C'est voir un mendiant chez le conseil fiscal, c'est voir deux amants qui lisent le journal, c'est voir sa maman. Chaque fois qu'on se voit mal,
la mélancolie. C'est revoir Carbot dans la reine Christine, c'est revoir Charlot à l'âge de Chaplin, c'est Victor Hugo et Léopoldine, la mélancolie. C'est sous la teinture avoir les cheveux blancs, et sous la parure faire la part des ans, c'est sous la blessure voir passer le temps. C'est un chimpanzé au saut en verre qui meurt à moitié, qui meurt à l'envers, qui donnerait ses pieds pour un revolver, la mélancolie. C'est les yeux des chiens quand il pleut des eaux, c'est les bras du bien quand le mal est beau, c'est quelquefois rien, c'est quelquefois trop, la mélancolie. C'est voir dans la pluie le sourire du vent et dans l'éclaircie la gueule du printemps, c'est dans les soucis voir que la fleur des champs, la mélancolie. C'est regarder l'eau d'un dernier regard et faire la peau au divin hasard et rentrer penaud et rentrer peinard. C'est avoir le noir sans savoir très bien ce qu'il faudrait voir entre loup et chien, c'est un désespoir qu'a pas les moyens, la mélancolie.
Christiane, à demain matin. Oh, vous allez retrouver Cécile vers 8h, mais je vais l'attendre. Allez, on continue. Léo Ferré, toute la nuit sur Radio Libertaire. Dans quelques minutes, je ferai une toute petite pause technique, tout simplement pour changer le support d'enregistrement de l'émission. Et ensuite, on repartira, bien évidemment, avec Léo. Mais là, on continue avec lui, bien sûr. Ivry Gitlis, Léo Ferré, Les Étrangers.
Regarde-la ta voile, elle a le sein gonflé, la marée de tantôt te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drape dans Paris. T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. Ces
C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, homme ou chien c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de l'Orient ou de Brest pour les sauver, il y a toujours un marin qui rallume son voile. Regarde la taquille à la mer en allée, la marée de tantôt de la toute enjubée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ces robes vêtues de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'accrochait deux ancres aux doigts de chair, et les lignes de ta main ça se lit au fond de la mer. C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde, on était trois copains au bout de mille nuits, et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde, quand la mer se ramène avec des étrangers, en Bretagne, il y a toujours la crêperie d'à côté, et un marin qui te file une bonne crêpe en ciment, tellement il y a fourré des tonnes de sentiments. Regarde la tabarre comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros tragiques. La mer a ses anglais avec le drapeau noir, on dirait 68 qui sent rien du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé. Si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. C'est pas comme un avril de mon cul dans ce bar adossé au destin de la rue. Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 000, l'eau chute, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là. La mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie. Et quand on se ramenait avec notre galaxie, ça faisait un silence à vous mourir d'envie. Et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va, dans Brest ou dans l'Orient, on pleure et on s'en.
L'an 10 000, le CHU, tu te rappelles? L'an 10 000, tu te rappelles? Le CHU, l'an 10 000, 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 l'an 10 000.